Bonjour, futur lecteur de Deux chères et dames, je m'appelle Boris Cyrulnik et je suis un archéopsychiatre, c'est-à-dire que je suis à la fois neurologue et psychiatre comme on l'était avant mai 68. L'écriture a toujours joué un rôle important dans ma manière de sentir le monde parce que j'ai l'impression que lorsqu'on écrit, on reprend un peu possession du monde, on est moins bousculé par le monde et c'est pourquoi l'écriture est une forme de transmission, de communication, qui est à la fois esthétique et profondément émotionnelle. J'entremêle une écriture scientifique avec parfois une écriture littéraire, c'est-à-dire j'alterne des publications scientifiques avec des illustrations et des anecdotes, parce que je pense que la pensée complexe n'est pas la pensée compliquée, c'est la pensée des spécialistes qui est compliquée, et qui finit par ne plus parler avec personne, sauf entre spécialistes. Or, je pense que la science participe à la culture et doit partager ses connaissances, et que c'est un mode de partage qui permet au lecteur d'avoir des informations scientifiques illustrées par des exemples de cas, par des exemples de cas pris dans la clinique et des exemples de cas pris dans la littérature. La démarche de Deux chères et dames est une démarche intégrative, c'est-à-dire que de plus en plus maintenant, les chercheurs intègrent des données disparates de disciplines différentes, comme on l'a toujours fait en médecine, en archéologie, au lieu de chercher à descendre celui qui n'a pas la même discipline que nous. Au contraire, on cherche à apprendre de lui des informations qu'il a, lui, extraites dans sa discipline. On a donné la parole autant à des neurosciences qu'à des psychologues ou même à des anthropologues. Les neurosciences nous apprennent qu'on est tous inégaux face à la sécrétion de sérotonine, qui est un neuromédiateur qui joue un rôle majeur dans la dépression. Mais si on donne la parole à un psychologue, on se rend compte qu'un petit sécréteur de sérotonine peut quand même s'organiser une vie tout à fait agréable à condition d'avoir un style existentiel qui correspond à son extrême sensibilité. Les neurologues nous apprennent que certaines zones du cerveau provoque des sensations de bonheur sans objet ou de malheur sans objet, mais que le façonnement précoce du cerveau oriente préférentiellement les informations vers la zone du malheur ou la zone du bonheur. L'inconscient cognitif est constitué d'une mémoire sans souvenir. Il y a des traces qui nous rendent préférentiellement sensibles à certains types d'informations qu'on perçoit mieux que tout autre, ce qui fait que chacun d'entre nous perçoit un monde différent, alors que l'inconscient freudien, lui, est dominé par le refoulement et les mécanismes de défense qui n'ont plus rien à voir avec la biologie. L'empathie permet de se façonner, de découvrir le monde des autres avec plaisir, à condition qu'il y ait autour de nous une sécurité affective. Les enfants qui n'ont pas cette sécurité affective développent mal leur empathie. Et les personnes âgées sont moins sensibles au monde extérieur, mais deviennent plus sensibles à la représentation de leur passé, c'est-à-dire à leur histoire, et non plus à leur développement. Et on peut analyser, grâce aux cliniciens, grâce aux caméras à positons, et grâce aux tests, comment ces gens âgés sont de plus en plus forts au point de vue identité narrative, et de moins en moins soumis aux pressions du milieu. Voilà. Au revoir, futur lecteur, j'espère que vous pourrez lire ce livre sans difficulté, parce que on peut le lire en désordre. J'ai fait un plan que je crois ordonné, mais comme il s'agit d'une démarche scientifique et littéraire, on peut le lire en désordre, on comprend quand même, et j'espère qu'on aura bientôt l'occasion d'en parler.